De loup.
On va parler de surf dans cette édition à Papara sur la côte basque et au JO de l'année prochaine. On ira faire un tour à la CPS et puis un guide illustré des couronnes de tête. C'est en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence donc par cette question. Comment gérer les urgences médicales aux Jeux Olympiques ?
Eh bien, c'est une des questions qui se pose encore pour les organisateurs de l'épreuve de surf de Tehaupo. La semaine dernière, lors de la visite ministérielle à la presqu'île, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra se sont interrogés sur le dispositif prévu pour ramener les athlètes blessés depuis le PK0 jusqu'au Taonais. C'était il y a 10 jours donc. La ministre des Sports était d'autant plus inquiète qu'il y a quelques semaines à peine, le numéro 2 mondial Ethan Ewing avait dû être évacué après avoir été pris dans la mâchoire de Tehaupo. Les Water Patrol étaient bien là pour le sortir du récif, mais son périple a ensuite été plutôt compliqué. Écoutez.
Il a été amené à la pointe, ensuite il a été pris en charge et il a dû faire le trajet par la terre, avec une route qui est encore aujourd'hui un peu chaotique, un passage de guet, rivière. Puis après il a été amené vers l'hôpital de Talavant et c'est à partir de là qu'on a pu le soulager parce qu'il n'y avait pas d'option de soulager le patient avant ça. Et ensuite il a été transféré au Taonais pour une imagerie. Et je comprends qu'il se pose des questions sur la réponse qui a été une réponse qui n'a pas été optimale, mais parce qu'il n'y avait pas le dispositif.
Le docteur Tony Tekwatahoa, chef du service des urgences du CHPF, avec qui travaille le pays et l'État pour mettre sur pied un plan d'urgence adapté à l'événement. Un plan d'autant plus important que 48 athlètes seront alignés sur l'épreuve olympique et que quelques-uns parmi eux ne seront pas aussi expérimentés que les pros de la WSL ou les chargers locaux habitués de la passe de Havaé. Le défi, c'est aussi de prendre en charge les éventuelles urgences des fan zones. 10 000 spectateurs attendus à Papeete, 5 000 à Papara, au moins 600 au PK0. Tout ça sans handicaper l'activité quotidienne de l'hôpital et du SAMU. Aucun doute pour l'urgentiste, il faut mettre en place un dispositif dédié.
C'est le renfort d'une régulation au SAMU qui puisse coordonner finalement les demandes de soins et les alertes concernant toute la partie JO, que ce soit au niveau du site de compétition ou sinon au niveau des fan zones. Et ensuite, un dispositif tout particulier héliporté sur le site des JO. L'idée étant qu'on vienne en soutien et en articulation d'un système sanitaire qui est déjà organisé au sein des JO.
Oui, et le site et le village olympique devraient avoir leur propre dispositif d'urgence, mais le CHPF reste bien le seul site de prise en charge des urgences vitales au Fénois. Alors vous l'avez entendu, la question des moyens héliportés est centrale. Ils doivent permettre de mettre le Taonais à une quinzaine de minutes de Tehaupo au lieu de près d'une heure habituellement. Le CHPF aimerait bien qu'un autre hélicoptère vienne en renfort de l'appareil de Tahiti Nui Hélicoptère qui sert habituellement aux urgences. Et pourquoi pas que cet hélice-mur soit ensuite pérennisé à Tahiti. Le chef des urgences demande aussi que l'hélice-surface qui doit être aménagée près de la pointe Faremaora au PK0 pendant la compétition fasse partie de l'héritage de ces JO.
Ça reste quand même un lieu qui reste dangereux, JO ou pas JO. Ça reste aussi un endroit où il y a la WSL qui passe tous les ans. Donc ça peut être un dispositif qui peut être mis en place. Et ça va médicaliser d'ailleurs plutôt assez plus facilement toute la zone qui est entre Vairao et puis le Fenoaichere.
Voilà, des discussions sont en cours sur cette organisation des urgences vitales pendant les JO. Et sur leur financement, tout n'est pas réglé à l'heure actuelle entre le comité d'organisation, le pays et le CHPF.
On parle de cette nomination.
Une nomination très attendue, celle du futur directeur de la CPS ou peut-être de la future directrice en la personne de Romina Ma. Rien n'est confirmé, mais on vous en parlait en fin de semaine dernière. L'actuelle directrice adjointe du budget et des finances du pays est pressentie pour prendre la direction de la caisse, laissée vacante par Vincent Fabre au mois de mars. Le poste de directeur de la CPS est bien sûr stratégique, surtout dans le contexte actuel de tensions et de besoin de réforme de la protection sociale généralisée, raison pour laquelle le ministre de la Santé et de la PSG, Cédric Mercadal, mène depuis plusieurs semaines un processus de sélection rigoureux.
On a eu une commission d'évaluation des candidats. On s'est retrouvé avec 3 candidats. Et celle qui a été pressentie, eh bien, Madame Ma, qui a réussi au niveau de la commission à faire l'unanimité. Donc là, on a proposé à la signature du président sa candidature, qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. Et le processus va être en cours jusqu'à présentation auprès du conseil d'administration de la CPS. Puis derrière, une nomination, possiblement, en conseil des ministres.
Trop tôt donc pour confirmer la nomination de Romina Ma, mais c'est bien parti. Sa candidature a fait l'unanimité dans la commission d'évaluation. Elle doit être présenté aujourd'hui en commission de l'Assemblée. Par hasard, si la spécialiste des questions budgétaires est pressentie pour ce poste, la CPS a de vrais défis de ce côté-là. Vendredi, lors du conseil d'administration de la Caisse, un rapport révélé par Polynésie la Première pointait qu'il faudrait passer de 15 à 20% de cotisations maladie pour équilibrer la branche. Syndicats comme patronat veulent trouver d'autres solutions.
Et à Paris aussi, ça discute de gros chiffres.
Avec cette taxe sur l'aérien évoquée fin juillet par Clément Beaune, le ministre des Transports d'Emmanuel Macron a annoncé que cette cette contribution serait introduite dans la prochaine loi de finances pour dégager 100 milliards d'euros d'investissement dans le train, mode de transport beaucoup plus écologique que l'avion. L'annonce a été applaudie par certains, mais pas du côté des élus ultramarins. Le sénateur socialiste de Guadeloupe, Victorin Lurel, a rappelé au ministre que les prix sont déjà très volatiles et que leur hausse se ferait aux dépens de la continuité territoriale. Il s'oppose au projet quand la députée polynésienne Mereana Reddarbelot demande, elle, une exemption. J'invite le ministre à reconsidérer le référentiel pour les Polynésiens qui doivent parcourir 18 000 km et 12 fuseaux horaires pour passer Noël en famille, l'a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux. Pour eux, le train n'est pas une option. Alors oui, à la transition écologique, mais pas au détriment des populations ultramarines. Fin de citation.
On revient maintenant sur les résultats sportifs du week-end.
Oui, et quels résultats pour les Tikitoa qui s'envoleront bien vers Dubaï où aura lieu le prochain mondial de beach soccer. Ce sera en février 2024. La sélection tahitienne s'y est qualifiée ce week-end au parc Aoreitiniao qui, vous le savez, accueillait la Coupe océanienne des Nations. Les Tikitoa avaient signé un parcours sans faute jusqu'à la finale de samedi contre les îles Salomon et ils ont confirmé face à ces pionniers du beach soccer dans la région 7-0 score final. Le capitaine Raimana Limfunkwe ne pouvait que très satisfait, on l'écoute.
C'était la première étape, on va dire, pour nous de remporter cette qualification océanienne pour avoir notre ticket pour la Coupe du Monde. Après le match, très satisfait. Je pense que cette finale, on l'a gagnée avec la manière. Déjà, on n'a aucun but, ce qui n'est jamais arrivé dans une finale de océanienne. Fier, très fier de l'équipe, de l'ancienne génération dont nous faisons partie, ainsi que la nouvelle. Je pense qu'il y a un bel avenir pour le beach soccer polynésien.
Voilà une victoire très collective puisque 6 joueurs différents ont marqué pendant le match, dont 3 pendant les 5 premières minutes. Le gardien tahitien Jonathan Toroya a été nommé Gandor du tournoi. Ereoari Salem a lui été élu meilleur joueur de cette édition. Quant au Fidjien Gabriele Matanisinga, c'est dont l'équipe termine 3e du tournoi, il est le meilleur buteur, notamment grâce à un 12-0 contre les Tonga en petite finale.
Et des médailles aussi en surf ce week-end.
Oui, d'abord avec la 7e Vaine Cup qui s'est terminée hier. 3 jours de surf 100% féminin au spot de la Taharu. Une houle modeste mais qui a permis à toutes les compétitrices de s'exprimer et notamment à Kiara Gold qui s'impose dans la catégorie reine, le Surf Open. A noter aussi les belles performances de Taki Haye-Lacote et Miliani Simon dans la catégorie Benjamin et Minime. Du surf aussi en métropole où Kaoli Vast a encore brillé dans les vagues de la côte basque. Le prodige de la presqu'île s'était hissé en finale de la Rip Curl Pro Anglette dans laquelle il s'incline pour 0,03 points face au français Thiago Carrig. Thiago Carrig, 21 ans, qui avait déjà battu en quart de finale un certain Michel Bourrez, toujours en quête d'une qualification olympique.
Et puis un mot aussi sur de la course à pied.
Oui, de course en montagne, ou plutôt course en vallée avec le Red Vittel qui, pour sa 17e édition, a connu un nouveau beau succès. Plusieurs centaines de participants pour des courses ou des marches nature et même des canicross. Fulbert Garra s'impose sur le petit trail, 12 km tout de même, et c'est le marathonien Damien Trocnet qui prend la première place du 25 km devant Teva Poulin.
Et on arrête de transpirer, on passe à de la littérature.
De la littérature et de la tradition avec cet ouvrage consacré aux couronnes végétales de Tahiti. Un beau livre de 190 pages signé Thierry Nui Ebb, sage-femme de profession qui s'est pris de passion pour ses réalisations artisanales. Et à l'entendre, la couronne de tête n'est pas un objet immuable. Écoutez.
Aussi un accessoire de mode, hein. Elle évolue avec la mode. Voilà, elle a été toute fine à un moment donné, parfois très sauvage, et puis finalement, là, en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, elle est énorme. De nouveaux végétaux ont été importés, ça a donné envie aux personnes qui en faisaient de faire de nouveaux modèles avec des nouvelles fleurs.
Voilà un livre qui parle d'histoire avec de nombreux documents anciens, de botanique bien sûr, mais aussi de technique avec des tutoriels très bien illustrés pour apprendre les bases de la confection de couronne et explorer différents styles et modèles. Couronne végétale de Tahiti, Tehei Upo'ono Tahiti, qui vient donc d'être publié au Vent des Îles. Voilà, c'est la fin de ce journal. À noter que demain mardi, c'est Muetei Brotherson qui sera l'invité de la rédaction de Radio 1. Ce sera à partir de 11h30, aussi en direct sur Thierry FM bien sûr. Nous parlerons de ce bilan des 100 jours qu'a dressé le président du pays. Et pour le préciser, nous recevrons aussi tous les mardis et tous les jeudis jusqu'à la fin septembre un des 10 membres de son gouvernement. Voilà Kevin.
Merci beaucoup Charlie.